La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Angers, il est l'heure de la Covidienne, votre quasi-quotidienne d'informations faites depuis chez nous pendant le confinement. 30 minutes d'actualité qui vont commencer par une double rencontre faite par Sam. Il s'agira de Jamil, un médecin des hôpitaux gouvernementaux au Liban, et d'Alia, responsable des ressources humaines d'une entreprise industrielle. Ils nous témoigneront pour nous leur gestion de leur métier face au Covid-19. S'en suivra un nouveau numéro de l'hebdo-parleur sur l'actualité sociale qui vous sera présenté. Et pour finir, Solène, notre bénévole, vous plongera au cœur de la Bibliothèque nationale de France avec une chronique. On revient dans quelques instants. Comme convenu, on commence cette Covidienne avec Jamil, médecin des hôpitaux gouvernementaux. Sam est allé à sa rencontre.
Salut Jamil, peux-tu me parler un peu de la situation en cette période d'épidémie au Liban ?
Hello there, thank you for having me. As you know, the COVID-19...
Bonjour à tous et merci de me recevoir. Comme vous le savez, le Covid-19 a frappé énormément de pays et est devenu une menace internationale. Le Liban, en tant que petit pays, a pu gérer la situation malgré des ressources limitées et nous encourageons les habitants à rester chez eux pour limiter les risques d'infection et éviter que le nombre de malades augmente. Nous avons également 4 centres principaux de traitement du Covid-19 pour éviter l'augmentation de malades selon les régions.
Quel rôle jouent les médias dans le traitement de l'information sur le Covid-19 ?
La présence des médias libanais est très utile pour nous. Les télés et radios diffusent des pubs de prévention et lancent des campagnes de donations qui ont permis de récolter une belle somme d'argent pour soutenir les hôpitaux.
Habituellement, tu pratiques en tant qu'obstétricien gynécologue. As-tu été déplacé vers les services qui traitent le coronavirus ?
Je pratique toujours l'obstétrique et la gynécologie, mais j'ai été appelé sur les services de nuit aux urgences et notre hôpital va devenir le centre principal du traitement du Covid-19 en vue de l'augmentation du nombre de personnes contaminées.
Est-ce que vous arrivez à tester la totalité de la population à risque ?
Les tests de dépistage sont disponibles dans beaucoup de laboratoires à travers le pays et sont gratuits pour les personnes présentant des symptômes. Pour les autres, le prix est réduit.
Et sens-tu une forte pression au sein du milieu hospitalier ou c'est encore gérable ?
Pour être honnête, la pression se fait sentir pour beaucoup d'employés et d'aides-soignants. Au-delà de la quantité de travail, ils ne peuvent pas voir leur famille. Mais nous avons confiance en nos équipes et nous pensons que nous pouvons gérer la situation. Il y a beaucoup d'engagement, surtout après l'augmentation du nombre de malades et la prise de conscience collective, avec les protocoles de sécurité mis en place par l'armée et les forces internes, ainsi que par de nombreuses ONG.
Quelles ont été les mesures prises par le gouvernement pour soutenir les hôpitaux ?
Le gouvernement a procédé avec beaucoup de plans contingency pour offrir les requirements financiers et non financiers.
Le gouvernement a mis en place des plans contre la contamination pour avoir les ressources financières et même non financières, notamment avec l'aide des ONG. Le gouvernement, avec l'aide des autorités locales, a également composé des équipes de volontaires dans le but de stériliser les rues en utilisant du chloroforme diffusé plusieurs fois par jour et également en testant la température des gens entrant et sortant des villages et même des magasins et pharmacies. Il y a en plus beaucoup de volontaires pour s'occuper des livraisons et ainsi limiter le nombre de personnes dans les rues.
Also many have volunteered to do delivery services and to limit the number of people coming out in the streets.
Merci beaucoup Jamil d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
I would like to thank each and everyone in the healthcare field, those unknown soldiers.
Je voudrais remercier tous ceux dans le milieu médical et chez les soldats qui ont quitté leur famille pour rester aux côtés des patients et faire leur devoir national. Merci encore de m'avoir reçu. On a besoin de vos prières et de votre soutien. Ensemble, nous pouvons nous battre et on espère réussir ce challenge. Restez protégés.
Merci à Sam pour cet échange. Il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il a pu échanger avec Dalia, responsable des ressources humaines d'une entreprise industrielle. Je vous laisse écouter.
Après avoir eu la chance de discuter avec Jamil, médecin dans des hôpitaux gouvernementaux au Liban, qui nous a expliqué comment était gérée l'épidémie, je me suis entretenu avec Dalia, qui est responsable des ressources humaines dans une entreprise industrielle et qui nous parle de la gestion du travail en cette période épidémique. Salut Dalia, comment vas-tu ?
Salut, ça va bien, merci.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la situation en ce moment avec l'épidémie au Liban ?
Aujourd'hui, le Liban est en état d'urgence sanitaire. Les Libanais sont appelés à rester confinés chez eux et à ne sortir qu'en cas d'extrême urgence. Les rassemblements dans les lieux privés et publics sont interdits.
Est-ce que, comme toi, beaucoup de domaines d'activité continuent à travailler ou la majorité ont été mis en stand-by ?
La suspension du travail est pour les sociétés, les entreprises privées, les commerces, en tenant compte des cas d'extrême nécessité. Alors, les gens qui travaillent encore sont les boulangers, tout ce qui est en lien avec la vente des denrées alimentaires et d'autres matières de consommation principale. Ceci, bien sûr, avec les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les pharmacies et les industries pharmaceutiques.
Et que penses-tu du fait que vous deviez encore travailler ? Tu n'as pas peur du tout des répercussions sur ta santé ?
La peur existe, si ce n'est pas sur ma santé, c'est sur la santé de ma famille, surtout les personnes âgées de ma famille. Mais dès la déclaration du premier cas d'infection au Liban, chez nous à l'entreprise, on a commencé à prendre des précautions contre la transmission du COVID-19. Les précautions qu'on a prises, c'est comme la prise de la température de tous les employés et les chauffeurs externes en entrant à l'entreprise, et en cas des signes d'alerte comme fièvre ou de symptômes d'infection, la personne se rend dans une salle d'isolement qui se trouve à l'entrée de l'entreprise, et là-bas il attend l'arrivée du docteur pour lui examiner. Encore, on a mis en place un plan de rotation des emplois pour réduire le nombre des employés présents à moins de 50%. Et maintenant, nous sommes presque à 20%. On a demandé aux gens de maintenir une certaine distance physique entre eux. Et on a prendre des mesures d'hygiène. On a distribué des bouteilles de désinfectants pour les mains dans les enfermés et dans toute l'entreprise. Aussi, on a stérilisé tous les bureaux de l'entreprise et les enfermés. On a demandé aux gens de réduire les réunions au minimum possible et essayer de tenir des réunions par vidéoconférence. Concernant la sécurité alimentaire, nous avons arrêté de préparer de sandwichs à la cafétéria et nous avons demandé à nos gens d'apporter le repas de chez eux. Et aussi, on a mis beaucoup de brochures, ont été publiées partout dans l'entreprise pour appeler les gens de mesures de précaution contre COVID-19. Et alors, avec toutes les mesures de précaution, que nous respectons le risque à moins.
Est-ce que si tu trouvais à un moment la situation trop risquée, tu envisagerais d'arrêter le travail pendant un certain moment ou ce serait une trop grosse perte financière pour toi ?
L'envisagement de faire une pause au travail dépend de la situation. Jusqu'aujourd'hui, je travaille quelques jours de chez moi à domicile et quelques jours au bureau. Et quand même, le risque de perte financière existe, surtout pour les employés de petites et moyennes entreprises.
Et justement, en cas de chômage temporaire forcé, est-ce que le gouvernement a annoncé des aides financières pour les entreprises ?
À propos de gouvernement, jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a pas pris une décision concernant le support pour le chômage temporaire forcé. Mais Banque du Liban a annoncé le 23 mars un circulaire intermédiaire qui consiste aux banques de donner des prêts aux entreprises avec intérêt zéro et que ces prêts soient remboursés dans les 5 ans à condition qu'ils soient utilisés pour payer les salaires des employés et des employés des clients concernés ou à couvrir des besoins de production ou d'exploitation pendant les 3 mois, mars, avril et mai.
C'est parfait. Merci beaucoup, Dalia, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour finir ?
Alors, je vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez à l'égard du Liban, espérant que la France, le Liban et le monde entier pourront sortir de cette crise et de la vaincre le plus tôt possible. Merci.
Merci à Sam pour ces échanges, ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour votre actualité des classes sociales. C'est juste après Alcassar et son titre Selma sur Radio Campus Angers.
سلام يا سلمى يا سلمى يا سلام في باب الدكان تسقي السكران يجي شيطان بكاس الماس يا سلمى حناني سلمى عمادان على جوع الناس وسالوا دموعهم وصاروا طوفان يا سلام يا سلمى يا سلمى يا سلام كل يوم حرب وما فيش أبطال انا عندي كلام اسمع صراخي يا حبيبي نار الجنة شفا الايتام سلمى قاعدة بحضن الشيطان ويحنى شخ شخ عالجدران يا سلام يا سلمى عدي ما
Vous êtes sur Radio Campus Angers, il est l'heure du tour d'horizon de vos actualités sociales avec l'hebdo-parleur entre politique et Covid-19, je vous laisse écouter.
L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
Cette semaine, dans l'hebdo parleur, c'est vrai que ça démange, hein. Le confinement est prolongé de 2 semaines. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'a annoncé vendredi dernier. Le pic épidémique est encore devant nous. Les bilans s'alourdissent et le système de soins résiste difficilement au débordement. Un système de soins durement éprouvé depuis au moins 10 ans. La loi santé, proposée en 2009 par Roselyne Bachelot, a en effet installé durablement une gestion administrative et comptable, condamnant les hôpitaux à fermer lits et postes au bénéfice d'une austérité budgétaire. Cette semaine, l'équipe de l'Hebdo Parleur a donc voulu remédier à cette situation de pénurie chronique. Nous vous emmenons dans le service de diagnostic le plus performant du monde pour trouver une réponse à la dégradation du système de santé français. Bienvenue dans le bureau du Dr House.
Je vous préviens que si vous me sortez le même laïus que les 42 parasites sociaux qui vous ont précédé sur vos symptômes d'intense fatigue, je vous répondrai la même chose. Changez de boulot. Les paysans ont besoin d'aide pour... Ah, dégueulasse.
Docteur, docteur, ça me gratte un peu.
Ce serait le contraire qui serait étonnant, madame... Bouzin. La question serait plutôt, y a-t-il un endroit de votre corps qui ne soit pas recouvert de répugnantes pustules ?
Mais vous ne m'examinez pas ?
Non, merci, non. Ma mère m'a toujours dit de rester à distance des méchantes sorcières qui avaient des furoncles sur le nez. Alors là, ce que je vois à travers votre chemisier en soie véritable me suffit amplement. Ne bougez pas d'ici, voulez-vous ? Comment reconnaît-on les sorcières, braves gens ?
Au fait qu'elles n'existent que dans les contes ?
Non. Elles présentent le même poids qu'un canard, espèce d'inculte. Et devinez quoi ? J'en ai trouvé une rien que pour vous. Prenez quand même le temps de regarder son dossier avant de la brûler vive.
Elle est couverte de pustules. Une allergie ?
La varicelle ? Les lésions peuvent facilement être confondues avec des pustules.
Pustulatis degelassum est. J'ai moi-même failli vomir en consultation. Non, vous dites infection, je réponds la variole.
Les yeux ne sont pas injectés de sang, pas de maux de tête, ni de vomissement.
Sans compter que la variole a disparu de la surface de la planète depuis un moment.
Qu'est-ce qui vous fait croire que cela pourrait être la variole ?
Le déni.
Le déni ?
Il se trouve que la patiente est ancienne ministre de la Santé. Outre qu'elle ait passé le plus clair de son temps à déglinguer le système de santé comme tous ses illustres prédécesseurs, elle a également effectué une visite dans un laboratoire haute technologie étudiant un vieux stock soviétique provenant d'une île d'Asie centrale au nom imprononçable.
D'accord, mais quel rapport avec le déni ?
Quand on passe son temps à mentir de façon pathologique pour faire trimer toubib et infirmière en leur disant qu'ils sont les Superman du système de soins, on peut être sûr qu'elle a aussi menti sur les maux de tête et tout le reste.
Eh, regardez ça ! Sur son compte Facebook, elle s'est prise en photo devant les bocaux du laboratoire.
Bien ça, bien. Aucun respect des consignes de sécurité.
Allez go, mettez-moi donc cette vilaine sorcière en quarantaine.
Par l'instant, dans la vraie vie des vrais gens.
Attention pour lever. Lever. On enlève le manteau.
L'opération est délicate. Ces patients sont sous assistance respiratoire. Tout choc est proscrit.
Super ce que vous faites, on continue doucement comme ça.
Il n'y a plus de sécurité au niveau du tube, faites doucement. Pas trop.
On y va tout doucement.
Le TGV qui transporte d'habitude des voyageurs a été réaménagé en hôpital roulant. Les brancards installés au-dessus des sièges. Aux côtés des malades, 50 soignants.
On peut faire des gestes de réanimation extrêmement compliqués. Et comme je vous le disais, on a beaucoup plus d'espace que dans une ambulance ou un hélicoptère. Ce qui permet de travailler à plusieurs si cela est nécessaire.
Leur destination, les Pays de Loire, est la région la moins touchée par l'épidémie. Mais les hôpitaux de l'Ouest préviennent, ils ne pourront pas accueillir les patients d'autres régions indéfiniment.
Dans l'Est de la France, la situation est désormais critique.
On démarre ce journal avec les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé sur le Covid-19 et le bilan s'alourdit. Dans la région, 3292 personnes sont hospitalisées dans le Grand Est, mais 961 personnes sont sorties d'hospitalisation. Le nombre de victimes s'élève désormais à 580.
Des bilans qui augmentent de manière exponentielle et sont périmés à l'instant même où ils sont publiés.
Les renforts sont arrivés à Mulhouse. Ce samedi, 16 camions de l'armée de terre livrent un centre médical d'urgence. La ville est durement frappée par l'épidémie. Les hôpitaux sont surchargés. Sur le parking du principal hôpital de Mulhouse, ces militaires commencent à assembler les tentes d'un centre de soins itinérant unique en son genre. Un hôpital militaire de réanimation, le seul dont dispose l'armée française. C'est le même qui avait été déployé pour combattre l'épidémie Ebola.
Ouais, ben j'espère qu'ils l'ont bien désinfecté quand même. Hein.
Le discours autour de la dangerosité, lui aussi, a radicalement changé.
Ça, c'était avant le 16 mars, quand on croyait encore que le virus n'aimait que les Chinois et les Italiens, et que la France, c'était pas trop son truc.
Et alors, vous êtes inquiet, vous, personnellement ?
Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. C'est on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Ça fait partie de la vie, ce virus. Donc je suis pas particulièrement inquiet.
Oui, mais il y a des gens qui meurent quand même.
Oui, il y a des gens qui meurent de
comme
ça. Il y a
de
des gens
grippe,
qui meurent
normal.
De la grippe. Il y a des gens qui meurent. Vous savez, parfois dans certaines années, on a entre 8000 et 10000 morts par an de grippe. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, on fait une dépêche AFP ? Imaginez un peu le nombre de dépêches qu'on aurait.
On prendra un auditeur, Didier, qui a un regard un peu différent sur le confinement actuel. Didier, qui est conducteur routier dans l'Hérault. Bonjour Didier.
Bonjour Jean-Jacques et bonjour à toute l'équipe.
Bon, alors vous dites on en fait trop dans ce confinement. Pourquoi ?
Oui, moi je pense qu'on en fait trop parce que on bloque une économie mondiale pour un virus qui est pas non plus, bon, qui est peut-être virulent, mais c'est pas non plus la grippe espagnole, quoi. C'est pas non plus la peste. Hein. Donc moi je pense qu'il aurait fallu peut-être laisser faire la nature, quoi. Ça aurait peut-être fait des morts, mais bon, ça aurait une idée.
Bon, 100 000 morts, peu importe, Didier.
C'est
15 000 morts, peu importe, quoi.
Non, c'est pas question pour importe. Mais à un moment donné, à vouloir toujours Contrôler la nature. Oui. À contrôler la nature, il va nous arriver des choses beaucoup, beaucoup plus graves que ce virus. Hein.
En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Pratiquement nul.
Ah, ce son de l'ancienne ministre de la Santé. Je ne m'en lasse pas.
Mais allez chier dans une fiole, on verra après.
Face à une maladie qui se propage beaucoup plus vite que la grippe saisonnière, le ton se fait grave.
Quand tu dis plus vite, c'est combien de fois plus vite ?
Deux fois plus. Le professeur Hugh Montgomery, médecin et scientifique britannique, l'explique assez bien.
This coronavirus is very, very infectious. So every person passes it to three. Now that doesn't sound like much of a difference. But if each of those three passes it to three, and that happens at 10 layers, I have been responsible for infecting 59,000 people.
Dans la langue de Molière, on appelle ça une courbe exponentielle. Une personne infectée par le SARS-CoV-2 infectera ensuite entre 2 et 3 personnes en moyenne. Ces 3 personnes en infecteront encore 3 personnes chacune, et vous imaginez qu'au bout de cette chaîne, ça fait des chiffres assez astronomiques.
Un raisonnement moqué par Boris Johnson, le Premier ministre britannique...
Attends. Le même Boris Johnson qui vient d'être diagnostiqué positif à la Covid-19 ?
Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con ?
Not a good start, Boris.
D'autant que les symptômes, eux, sont bien plus inquiétants que ceux d'une simple grippe.
Lui est alité depuis presque 10 jours. Il a fait un marathon l'an dernier. Là, hier, il était moins pire, mais jusqu'à dernièrement, monter les marches, il montait une à la fois. Une à la fois. C'est pas juste une grippe, même une main vraiment mauvaise va durer 5 jours, 6 jours. Là, ça fait 10.
Le Conseil national professionnel des ORL, des otorhino-laryngologistes, nous a signalé la recrudescence de cas d'anosmie brutale, qui correspond en fait à la disparition brutale de l'odorat. On n'a plus la capacité de détecter les odeurs. Sans obstruction du nez, sans obstruction nasale, sans écoulement, et qui peut donc survenir de façon isolée.
Même si la propagation du nouveau coronavirus se poursuit dans le monde et que la pandémie tue plusieurs centaines de personnes par jour, des dirigeants politiques continuent de minimiser les risques. C'est le cas du président brésilien qui dénonce une hystérie autour du Covid-19 qu'il a qualifié de petite grippe vendredi à Brasilia. Après l'agression au couteau dont j'ai été victime, ce n'est pas une petite grippe qui va me faire tomber.
Il y a des pays où, avec leurs dirigeants d'extrême droite, ils sont vraiment pas vernis dans cette situation. Heureusement, chez nous, les politiques sont plus sérieux. Le Premier ministre prolonge le confinement de 15 jours alors qu'il faudrait 6 semaines, selon un conseil scientifique qui est déjà très prudent.
Allez soldats, on y va. Allez, on se dépêche. Amenez les personnalités sur leur brancard, dépêchez-vous. On passe les portes. Attention.
Docteur, on vous a amené le reste des cas contacts. Soldats, répartissez-les en brancards par chambrée.
Rompez, soldats, retournez donc protéger nos mines d'uranium dans ces lointaines contrées qui se portent si bien sous le joug du capitalisme et des dictatures. Même si c'est pas vraiment chez nous.
Mais qu'est-ce que j'ai, docteur ? Qu'est-ce que j'ai ?
Qu'est-ce que vous avez ? Oh, rien de grave. Une pénurie de médecins, de respirateurs, de masques, de gants en latex, d'infirmières, de seringues, des lits de réa. Et plus grave, un manque critique de frites à la cantine.
Vous avez la variole. Et comme vous avez probablement contaminé tout le gouvernement, on est en train de les isoler dans les chambres voisines.
On va bientôt manquer de chambres.
Vous n'avez qu'à les regrouper. Au pire quoi, ils se contamineront les uns les autres. Vous savez, ils font ça en Angleterre pour le coronavirus. S'ils survivent, ils auront l'immunité collective, mieux qu'à Corona Lanta. Ces Anglais, toujours fidèles à l'œuvre de ce cher Darwin.
Foreman, aide-moi, celle-là est convulse.
Arrêtez ! Arrêtez immédiatement ! J'ai parlé au docteur Tartampion. Il faut d'urgence ouvrir grandes portes et fenêtres et petitjeuner son corps d'huile de palme.
Calmez-vous, madame Ndiaye.
Quelle est cette petite voix perçante et désagréable ? Allez-vous-en.
Mais écoutez-moi, je vous dis qu'il faut manger des rognures d'ongles contaminées au petit déjeuner et se laver les oreilles 3 fois par jour à l'eau de fraise. Mais écoutez-moi, bon sang, c'est la science qui parle.
Foreman, quand vous en aurez terminé avec la pestiférée, collez-moi donc tout ce gouvernement en quarantaine avec des laxatifs et l'intégrale d'Alain Finkielkraut. Qu'on puisse commencer à travailler.
Alain Finkielkraut ?
Vous ne regardez donc pas les infos ? On est en pénurie de PQ.
Le Dr House parviendra-t-il à trouver un remède contre l'épidémie de variole qui ravage le gouvernement ? Agnès Bouzyn est-elle condamnée à mourir étouffée dans ses pustules ? Les soignants seront-ils payés un jour correctement ? Vous le saurez en écoutant la seconde partie de l'hebdo-parleur. Stay tuned.
Merci à l'équipe de Radio Parleur. On se retrouvera notre bénévole Solène pour sa chronique sur la Bibliothèque Nationale de France avec une chronique. C'est juste après Chapelier Fou et son titre Constantinople sur Radio Campus Angers. Vous êtes dans la Covidienne, il est temps de laisser la parole à notre bénévole Solène pour sa chronique sur la BNF. On se retrouve juste après.
La Bibliothèque Nationale de France, un lieu souvent utilisé par les chercheurs, les étudiants, les professeurs, où on s'imagine n'y trouver que des articles sur l'histoire de France, des vieux poèmes poussiéreux ou encore des images de nos anciens présidents de la République. Alors, la majorité d'entre nous se disent qu'ils n'ont rien à y faire de sympa, si ce n'est des recherches un peu barbantes. Mais détrompez-vous. Game of Thrones, Harry Potter, Le Hobbit, Warcraft, ou plus anciennement Merlin et les frères Grimm, autant de noms que l'on a tous entendus, vus et très souvent appréciés. Depuis le mois de janvier, la BNF se met à la fantasy. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un genre qui touche de nombreux domaines tels que la littérature, le cinéma ou encore la musique. Le monde de la fantasy est apparu en Angleterre au XIXe siècle et s'inspire de récits merveilleux du Moyen-Âge, mais aussi des contes nordiques et des mythes datant de l'Antiquité. L'exposition étant fermée actuellement, vous pouvez tout de même vous rendre sur le site fantasy.bnf.fr. Sur ce site internet, vous pourrez explorer le royaume d'Istilad à travers un jeu d'aventure accessible gratuitement. À travers une multitude d'énigmes, vous partez à la rencontre de créatures étranges et d'objets mystérieux. Votre objectif ? Sauver l'arbre du savoir, un véritable plongeon dans un univers inspiré du genre fantasy. Pour les plus curieux, vous pouvez cliquer sur le topic « Découvrir » où sont disponibles plusieurs explications sur le rapport entre la fantasy et les enjeux sociétaux majeurs. Par exemple, vous y trouvez un court format nommé « Quand les femmes prennent le pouvoir » qui retrace la représentation de la femme dans ce genre littéraire, de simple beauté à de véritables héroïnes combattantes, mais aussi sur les autrices de la fantasy. Enfin, des dossiers thématiques sont aussi disponibles. Ils présentent l'histoire du genre au travers d'images, de textes de référence, mais aussi d'interviews pour devenir incollables sur le monde de la fantasy. Autre genre, tout aussi intéressant, la bande dessinée. Créatif, passionné, ou simplement si tu t'ennuies chez toi, cette nouveauté est faite pour vous. À l'occasion de l'année de la BD, la BNF a lancé en janvier une application qui permet à tous de découvrir l'univers de la bande dessinée et même de créer la sienne. BDNF est un outil unique qui vous permet de comprendre les différentes étapes pour construire son récit et inventer un univers particulier grâce aux fiches pédagogiques qui sont mises à disposition. Par exemple, vous avez des fiches telles que comment créer son personnage, comment structurer une page, ou encore comment réaliser les bulles. Cette idée est née à la suite d'un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale. D'abord testé dans les écoles du primaire et du secondaire, il s'est ensuite répandu chez les auteurs en herbe puisqu'il permet de faciliter la mise en page autour de formats innovants. En famille, c'est également une bonne idée d'occupation. L'application peut être téléchargée gratuitement sur ordinateur, tablette ou smartphone. Admirateur de comics ou de mangas, ces formats y sont également disponibles. De plus, elle permet d'utiliser toutes les images disponibles sur la plateforme Gaïka, permettant ainsi la rencontre de la BD et du patrimoine. Personnages mystérieux issus de manuscrits médiévaux, décors d'opéra du 19e siècle, photographies célèbres, vous pouvez tout associer à vos propres dessins. Il est possible de reproduire toutes les étapes d'un auteur de bande dessinée, créer des fiches personnages, des scénarios ou encore éditer une planche. De quoi révéler vos talents d'écrivain et par la même occasion, de rendre hommage à Albert Uderzo, l'un des pères de la BD Astérix et Obélix qui nous a quittés le 24 mars dernier. Alors à vos crayons et à bientôt.
Merci à toi Solène, place à la musique avec Serwas et le titre Letters sur Radio Campus Angers.
Engage in the world. There's a sword on you too. Maybe. sleeve full of love. Whoa, whoa. Keeping it cold, warm, warm. Distances grow without us even knowing. Yeah, your intentions. Next dimensions. That's why I'm writing you a letter. Gonna believe that life will keep on getting better. Yes, I gotta meet you halfway. But I never really dare to say. You and me, it's been so long. Could it be different? Can we be brave? Can we relate? Keep pushing through. Sleepless night, this is the night. What is the difference to what we had? This unhappy, please be sad. Would it be worse to what we had? Maybe it's about time.
Vous êtes sur Radio Campus Angers, il est l'heure pour la Covidienne de rendre l'antenne. L'émission sera disponible en podcast sur notre site internet radiocampusangers.com, rubrique de la Covidienne. Et on se retrouve dès demain. Très bonne soirée sur le 103 FM.